Voilà, donc ce film documentaire qui aborde un grand nombre de sujets finalement, parfois entremêlés et parfois assez différents. Il y a la question effectivement de pratiques mafieuses et totalement illégales. Il y a la question des relations publiques privées avec le point un peu focal sur Grenoble qui amène ensuite à plusieurs positions sur un certain nombre de villes de France, qui est un problème un peu différent, évidemment, même très nettement différent de ce qui est traité ensuite vis-à-vis de pays en voie de développement, en Afrique notamment. On a le cas de l'Afrique du Sud avec le problème de l'apartheid qui pèse très très lourd dans le contexte local. On a un point également sur la situation des États-Unis avec la position de l'agriculture. Enfin, on a beaucoup de sujets qui s'entremêlent et qui, à certains égards, quand même relèvent, à mon sens, mais je vous laisse la parole pour vous exprimer sur vos impressions, mais qui relèvent, à mon sens, de logiques assez différentes, finalement. Qui souhaite réagir, observer, remarquer, commenter.
C'est simplement pour dire qu'on a, il me semble qu'il a été dit dans la semaine que les compteurs d'eau à Soweto, là, les prépayés, avaient été abandonnés. Mm-hmm. Je crois que c'est Michel Joly qui a dit ça, non?
C'est ça, oui.
Je crois bien.
Oui.
Pour avoir le marché, avait contraint les représentants publics à supprimer les systèmes d'approvisionnement traditionnels qu'ils avaient pour pas que ça leur fasse concurrence. Et comme les gens n'ont pas marché, on dit non, on veut pas rentrer dans ce système-là, ils ont repris leur système traditionnel. Mais c'est quand même marrant qu'une société privée mette une clause dans le contrat en disant on veut pas de concurrence. Puisqu'ils prétendent que c'est toujours bon la concurrence.
Réaction.
Qui, toi ?
Non, simplement, moi, je voulais... parce que je suis allé en Californie et j'ai vu cette vallée sur 15 ans d'affilée. Effectivement, on peut se poser la question de savoir pourquoi... mais là, Pascal, en bon économiste, qui globalise bien les choses, peut nous expliquer ça. Pourquoi les États-Unis, qui est un aussi grand pays, je parle en termes géographiques et de surface, concentre sur cette zone hyper aride une aussi grande zone de production agricole, alors qu'il y a d'autres endroits, on peut les citer, hein, le Wyoming, le Montana, etc., où il y a de l'eau partout et il y a très peu de production agricole pour des raisons culturelles, etc., etc. Donc on peut se poser aussi la question de la place de l'État ménageur du territoire ou pas, d'ailleurs, ou des ménageurs du territoire, et puis aussi se reposer la question, puisqu'on parlait de l'Argentine, de savoir effectivement qui peut réguler au niveau international des choix comme cela. Je vous rappelle que l'autre jour, à un débat, un de nos amis chiliens nous disait, et puis je vais citer son nom, hein, c'est Toyota vient d'acheter un fleuve. Donc le fleuve va perdre son nom et va s'appeler Toyota. Et donc ça va du glacier jusqu'à côté de Valparaiso. Et là, il y a eu un mouvement de population par rapport à ça. Donc on peut se poser la question de savoir ce que fait l'État. Et l'État, ce sont des élus. Donc là, il y a des choses qui sont en train de basculer dans des situations qui paraissaient éventuellement invraisemblables. Et donc l'eau fait l'objet d'un espèce de concentré de tout un tas de contradictions entre public et privé.
Oui, mais il me semble que cette relation est cruciale dans le film parce que... si on voulait être totalement cynique, on pourrait dire, ce que je ne veux pas être, mais on pourrait dire finalement les entreprises aux pratiques mafieuses près, c'est-à-dire ça je mets à l'écart, les entreprises jouent le rôle qu'elles doivent jouer. Simplement, on se rend compte que, et le documentaire le montre assez bien sans le souligner vraiment, elles prennent la place que les pouvoirs publics leur laissent prendre, finalement. Si l'Argentine n'a pas été capable de négocier correctement son contrat d'eau avec Suez, c'est parce que l'organisation publique, l'organisation politique n'a pas été en mesure d'imposer ces conditions. C'est parce qu'ensuite, on a vu se superposer à ça une crise économique majeure qui n'a pas permis un bon fonctionnement de l'économie argentine et puis le relais ensuite avec les activités privées. Et on a très bien vu que quand dans le film on montre la situation grenobloise et puis un certain nombre de collectivités qui décident de remettre en cause l'exercice privé du service, eh bien ça se fait, effectivement, ça se fait. Donc c'est quand même un petit reproche que je ferai au film, c'est qu'on ne montre pas assez de l'autre côté la défaillance finalement du processus politique, du processus administratif et du processus de régulation. Et si ces conditions sont réunies, alors effectivement on arrive quand même beaucoup plus à obtenir une situation acceptable.
Oui, comme vous disiez au départ, c'est vrai que le documentaire est très partisan. Bon, les exemples sont majeurs, mais sont quand même bien orientés pour montrer que la gestion par les entreprises peut parfois révéler des pratiques mafieuses, et à l'inverse, que certaines gestions en régie peuvent être plus efficaces. Bon, je suis sûr qu'on a exactement les exemples inverses dans beaucoup de villes. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner aussi des exemples de ce qui peut marcher, des exemples inverses, quoi. Voilà.
C'est-à-dire parce que privé qui fonctionne.
Oui, voilà.
Ouais, ouais. Enfin, je peux donner quelques éclairages. Donc, effectivement, en France, on a connu dans les années 90 des situations extrêmement anormales, effectivement, où d'abord il était admis que pour entrer sur un marché de l'eau, un délégataire, c'est-à-dire une entreprise privée, pouvait verser, mais c'était officiellement acquis, c'était juridiquement acceptable, une entreprise privée donc pouvait verser une certaine somme pour peser dans la décision. Cette somme était ensuite utilisée par la collectivité comme bon lui semblait. On avait également des dispositifs juridiques plutôt flous entourant la méthode de négociation des contrats. On savait très bien qu'on avait un système de financement des partis politiques qui n'était pas très clair, etc. Et tout cela faisait que on arrivait à des situations comme à Grenoble où, effectivement, M. Carignon avait dit qu'il avait financé les partis politiques à cette époque-là, mais en vérité, le tribunal a démontré que c'était dans un but d'enrichissement personnel à plusieurs millions d'euros actuels. Bon, la régulation est arrivée, c'est-à-dire que on a quand même un fonctionnement institutionnel qui a permis une réaction assez ferme. En premier lieu, en 1993, avec la loi Sapin, qui est une loi de moralisation et de transparence dans la gestion de l'eau. Et puis des lois successives, ensuite Barnier, puis des lois successives Seguin, qui ont fait que désormais, ce système est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus encadré et laisse beaucoup plus de possibilités de mise en concurrence. Donc on voit bien que quand l'État est suffisamment fort, que la prise de position publique est suffisamment importante, on arrive quand même à progresser dans cette direction. C'est le premier point de réflexion. Le deuxième élément, quand on dit qu'il y a une différence, quand le reportage fait un focal sur la situation française, on dit qu'il y a une différence entre 15 et 20% entre l'exploitation privée de l'eau et l'exploitation publique, l'exploitation privée étant plus coûteuse. Donc cette différence, moi je ne saurais pas l'expliquer complètement, mais elle s'explique quand même en grande partie par des raisons objectives qui font que le prestataire, donc je l'ai dit tout à l'heure, et je m'excuse pour ceux qui étaient là tout à l'heure, le prestataire privé n'a pas la même fiscalité. Il doit payer un impôt sur les sociétés et il doit payer une taxe professionnelle qui n'existe pas pour l'exploitant public. Il y a une question d'utilisation aussi du domaine public. Voilà. Il y a des salaires qui ne sont pas les mêmes, notamment dans le haut de la hiérarchie salariale entre les entreprises privées et les entreprises publiques. Il y a aussi le fait, et ça passe souvent inaperçu, et on peut le montrer à travers des statistiques très fines qui ne sont pas du tout du ressort des entreprises privées, qui sont faites par, des, par le secteur public et par, par l'administration publique. On peut montrer que dans les cas très délicats d'exploitation du service, quand c'est compliqué, quand il faut traiter beaucoup l'eau, quand il y a des considérations techniques importantes à prendre en compte, eh bien, les collectivités ont plus tendance à déléguer. Elles ne le font pas elles-mêmes parce qu'elles ne savent pas, elles ne veulent pas, elles ne peuvent pas le faire à un coût maîtrisé. Et donc, évidemment, après, on le retrouve dans le coût final. Donc, il est normal qu'un exploitant, à ce moment-là, ait un coût supplémentaire si toutes les collectivités, en admettons, en exagérant, si toutes les collectivités se spécialisaient dans les cas faciles. Hein, voilà. Donc, est-ce que ça explique la différence de 15 ou 20%? Sûrement que non, puisque il faut aussi, évidemment, faire de la R&D, ce que les collectivités ne font pas, et il faut quand même reconnaître. Donc j'essaye un peu de maintenant de montrer un autre éclairage de cette réalité. Donc voilà, quand vous dites essayons de positiver d'une certaine manière, montrer des cas où ça marche. Bon, il faut quand même que je vous rappelle, mais je ne me fais pas le défenseur inconditionnel parce que j'ai bien conscience qu'il y a des pratiques qui sont totalement immorales et qui doivent être condamnables. Mais si l'on laisse ça de côté, il faut quand même remarquer que le progrès dans les techniques de traitement de l'eau se font par la R&D, la recherche et développement, qui est mise en œuvre par ces sociétés. Et là, on dit aujourd'hui en France 100 millions d'euros consacrés par les entreprises privées à faire progresser la qualité de l'eau. Alors, par rapport à ça, eh bien, est-ce que tous les investissements en termes technologiques sont justifiés? On sait très bien qu'il y a du lobbying à Bruxelles. Mais ça, c'est vrai dans tous les secteurs d'activité, pour que des décisions soient prises, pour que les réglementations évoluent dans le sens espéré par les entreprises, parce qu'elles s'y préparent et elles pourront vendre des choses. Mais en attendant, on a quand même une eau au robinet, une eau et un traitement des eaux usées qui est plutôt de très bonne qualité en France. Je faisais référence tout à l'heure à des niveaux de satisfaction des critères d'eau potable aux alentours de 98 ou 97% sur les critères physiques ou chimiques, sur les critères bactériologiques, etc. Donc on a une eau d'excellente qualité, on a beaucoup progressé là-dedans. Et puis quand on regarde quelle est... Bon, maintenant on suit ça de très près, notamment dans le souhait d'avoir quelque chose de plus transparent. Quand on regarde quel est l'indice d'insatisfaction par les réclamations des usagers sur des évaluations pour 1000, on est sur des chiffres ridiculement bas. Donc on peut considérer que les exploitants, aussi bien privés que publics, font bien leur travail. Donc vraiment, ça fonctionne plutôt bien. Alors, sur les retours en régie et sur le fait que, du coup, on conteste la position des fermiers, hein, puisque ça se passe comme ça, l'exploitant est souvent en affermage, ça c'est très bon, c'est un très bon signe, hein, parce que ça veut dire que les situations qui semblaient acquises peuvent être remises en cause. Les économistes disent qu'il y a un signal, il y a une menace crédible. Hein, vous pouvez toujours renégocier tous les 10 ans ou tous les 20 ans en disant attention, je peux reprendre mon contrat, mais si vous n'avez pas la capacité de le faire, si le voisin ne l'a jamais fait, votre menace n'est pas crédible. Et donc vous renégociez en essayant d'améliorer votre visibilité sur l'exécution du contrat. Hein, et donc on disait tout à l'heure, effectivement, un gros point d'interrogation, c'est les provisions qui sont faites pour travaux et les travaux que la collectivité paye et les usagers payent et les travaux où on n'a jamais pu vérifier s'ils étaient faits. Et la plupart du temps, ils ne sont pas faits. Donc évidemment, il y a des choses comme ça qu'il faut réguler. Donc là encore, une fois, les pouvoirs publics ont un rôle extrêmement important à jouer. Mais en tout cas, dès qu'il y a une retour en régie, c'est très bon pour la concurrence parce que ça veut dire que la menace est crédible, ça veut dire qu'on peut le faire. Et de ce point de vue-là, on a parlé de Toulouse quelques secondes dans le documentaire, Toulouse a très bien géré son truc parce que le maire a dit retour en régie en 2015, mais en même temps on renégocie. Hein, et donc c'est une manière de dire attention, il y a d'autres très grandes villes qui sont passées en régie, donc la menace est crédible, qu'est-ce que vous faites comme effort, hein. Donc à part ça, effectivement, on sait très bien que dans le différentiel, les fameux 15 et 20%, bah, il faut effectivement rémunérer les actionnaires, ceux qui ont apporté le capital, mais ça c'est... sauf si on sort du système capitaliste que l'on connaît. Ça, moi, je veux bien discuter là-dessus, mais on est là jusqu'à minuit. Mais si on ne sort pas de ce système-là, hein, si on reste dans un raisonnement, maîtrisé pour l'instant, eh bien, ceux qui apportent le capital sont rémunérés. Ils prennent un risque, notamment vis-à-vis des stratégies d'entreprise et de la R&D. Et par conséquent, effectivement, il faut leur redonner une partie du gâteau. Alors, Juste encore un mot pour préciser un certain nombre de choses liées à la situation de l'Argentine. Donc, je ne sais pas si vous êtes informé, mais donc Suez est reparti. Il se trouve qu'il faut contextualiser par rapport à la stratégie des firmes multinationales. Au moment où Thatcher et Reagan arrivent au pouvoir, donc là, le film le dit très bien, il y a un mouvement général de libéralisation qui contamine complètement les grandes instances internationales, le FMI, la Banque mondiale. Et ces gens-là disent, bon, de toute façon, on l'a bien expliqué dans le film, c'est le marché qui va permettre de nous sortir des ennuis, y compris donc dans des pays en voie de développement qui n'ont jamais investi dans nos infrastructures. Et ça, c'était évidemment une grosse bêtise. Il faut qu'à un moment donné, on ait un support en termes d'infrastructures suffisant pour assurer les services publics. Bon, on a utilisé cette mauvaise voie, mais en tout cas, ça a envoyé un signal au marché. Et ça, je reviens sur ce que je disais tout au début, c'est-à-dire que dès que la puissance publique faillit, évidemment, fait défaut, évidemment, c'est le boulot des entreprises de prendre la place qui est laissée libre. Et là, on a eu un vaste mouvement et nos entreprises françaises y ont participé. Donc le MEDEF peut dire, mais c'est extraordinaire parce qu'on a des fleurons de l'industrie française qui ont été chercher des marchés à l'extérieur. Et ça, c'est bon pour notre balance commerciale. Si c'est bon pour notre balance commerciale, c'est bon pour notre économie en général et c'est bon pour les particuliers. Voilà. Hein ? Donc on a ce discours-là d'un côté. On a tout un ensemble d'entreprises en Europe, les Allemands aussi l'ont fait, qui sont allés chercher des marchés à l'international parce qu'on a des marchés qui se libéralisent. Hein. Et puis, tous ces gens-là se sont rendus compte, et c'est pour ça que les chefs d'entreprise, il ne faut pas leur faire une confiance infinie, parce que même d'accord, Monsieur Messier, on a une preuve évidente, eh ben, ils peuvent se planter magistralement. Hein. Parfois, ils sont très autistes, ils croient, voilà. Et ils arrivent, comme je l'avais montré une fois dans une conférence ici, les responsables des plus grandes majors américaines de l'automobile qui arrivent devant le Congrès en disant « on s'est trompé », vraiment, ça la fout mal, hein, c'est sûr. Donc, ils se sont trompés, ils se sont pris... ils ont pris des contrats très hasardeux et là Suez en est un exemple majeur parce que effectivement ils se sont bien rendus compte que les usagers ne pouvaient pas payer, ils espéraient là-dessus mais ça n'a pas fonctionné et ils sont repartis sur leur cœur de métier. Donc si on refait un peu l'histoire, eh bien Suez s'est débarrassé de tout un tas d'activités qu'il avait en périphérie de son cœur de métier qui est plutôt effectivement le service public, enfin le service urbain, les services urbains, mais ils avaient un tas d'autres choses. Ils faisaient des prestations autour des funérailles, ils faisaient des prestations tout un tas de choses très diverses. Bon, Vivendi, c'est clair, on faisait du multimédia, on faisait de la culture, etc. Donc là, on a sorti cette entreprise du groupe et puis on l'a revendue et pour qu'elle se consacre à des activités de réseau dans les villes. Donc ce mouvement-là, il a connu un reflux très net et le cas de Suez, donc, ça montre qu'ils se sont trompés, ils étaient prêts à repartir. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas rentabiliser le système et ils sont revenus sur leur base. En même temps, donc, les usagers ont dénoncé ça. Donc, il y a les deux à la fois. Hein, il y a les deux à la fois. Et donc, en Argentine, donc, on a des collègues à Paris qui travaillent beaucoup sur ces questions-là et qui montrent qu'on est revenu sur une gestion par des petites entreprises régionales de l'eau qui sont dans la proximité, par des coopératives parfois. On a des systèmes... qui sont des systèmes de proximité maintenant, qui se sont mis en place et on ne fait plus du tout confiance aux firmes multinationales. Et cette leçon quand même, alors elle est bien malheureuse, mais elle a fait prendre conscience quand même à des pays comme ceux-là, qui sont des pays dits émergents aujourd'hui, qu'il ne fallait pas laisser la place au marché et qu'un système institutionnalisé devait absolument mettre les cadres, quoi. Ça, c'est très important à comprendre.
Moi, je voulais venir sur les dernières images de ce film parce qu'elles sont, elles sont saisissantes. Et moi, ça me fait penser à ce qu'on voit en Afrique noire, où là, la puissance publique n'existe pas. On arrive avec des dons, on met quelque chose en place. Si on met un système de vente et de récupération, un peu de monnaie, ben c'est le bazar. Hein, et là aussi, l'État est défaillant plutôt. Hein, et c'est la catastrophe, quoi. Et là, je parle d'un État que Poitiers connaît bien, enfin connaît tout le moins de nom, hein, où le président de la République se gave avec... il doit avoir, je ne vais pas raconter de bêtises, mais je crois que c'est 15% des produits du pétrole que son pays fournit pour lui. Hein. Et quand on va dans des villes où c'est le... La campagne, c'est un peu différent. Mais dans les villes, c'est le bazar, c'est épouvantable. Poitiers est jumelé avec Mundou. Mundou, c'est 250 000 habitants. Hein, et on consomme à Mundou l'équivalent de ce que Montamizé consomme en une journée. Quoi. Vous voyez le rapport de force. Hein. Et là, c'est l'État faillant. Et je pense que tant qu'on n'arrivera pas à trouver une solution à ce niveau-là, ce sera indémerdable. Hein. Personne ne voudra y aller. Et ça va être des terreaux de révolution, de tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, il n'y a pas d'explication. Quoi. Quand on y va, bon, on tend le dos. On a des dons, on fait fonctionner le système le temps qu'on y est. Et puis après, quand on est parti, bien souvent, ça tombe en carafe. Les gens sont insatisfaits parce qu'ils ont connu un système qui marchait bien. Ça semblait leur donner satisfaction. Puis patatrac, manque de prévoyance, tout ça. Hop. Donc c'est un problème souvent de culture. Et bon, ça devient inextricable.
Donc, s'il n'y a plus de réaction, si.
Il est possible que le chiffre que je vais demander ait déjà été donné, mais là, on arrive en fin de semaine. Est-ce qu'il est possible de savoir sur la France le pourcentage actuellement, étant donné que ça se renégocie tout le temps, public-privé ? Je ne sais plus.
Alors, on peut compter de deux manières le nombre de communes ou de structures de gestion de l'eau qui sont public-privées. Alors après, on fait un pourcentage pour les structures de gestion. Moi, je préfère parler vis-à-vis des abonnés, ceux qui payent la facture. À qui on paye sa facture au final. Donc en France, c'est à peu près 70%, 70-75% des abonnés à l'eau potable qui payent leur facture à des entreprises privées. Donc le privé, en termes de nombre d'abonnés, est largement majoritaire. En nombre de structures, ça baisse beaucoup, évidemment. Parce que
40% pour la générale des eaux, 20% pour la lunette, et 10% pour le ressort. En gros, un gros paquet.
Oui, il y a deux mastodontes, et puis petite, ça c'est cool. Oui, alors après, il faut regarder l'eau et l'assainissement. Mais le problème, c'est que sur nos factures d'eau, ça c'est sûr, on a l'eau potable, mais on n'a pas tous l'assainissement, puisqu'on n'est pas tous raccordés au service public des eaux usées. Donc,
dans les systèmes de régie, tu as la facture d'assainissement qui est indépendante, en plus. Oui, voilà.
Mais donc, le mieux, c'est de se reporter au nombre d'abonnés. Donc, on peut dire. Les trois quarts, c'est des entreprises privées. 30% pour les régies.
Je me demande s'il y a des gros écarts de prix, alors si c'est privatisé.
Entre 15 et 20%.
Ah oui.
Ah, entre les sociétés, là. Je ne peux pas vous dire, là.
On ne connaît pas.
Ça dépend des contrats. Elles sont globalement, les sociétés privées sont plus chères globalement, mais entre elles, je ne peux pas vous donner les différences. Ça dépend effectivement des contrats. Donc il faudrait reprendre tous les contrats Suez, tous les contrats Veolia.
Il y a tellement de variables qui rentrent dans le prix de l'eau. Si vous avez beaucoup de pompage, pas beaucoup de pompage, si la ressource est accessible, pas accessible.
Si c'est compliqué, ouais.
Bien. Merci encore d'être venu cet après-midi. Donc, si vous n'avez pas assez d'eau, vous pouvez aller au Dietrich, vous courez au Dietrich, il y a un film. Et puis, vous pouvez revenir demain après-midi. Je n'ai plus l'horaire en tête, c'est 16h aussi. 16h demain pour la fin de cette semaine sur l'eau. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée. Et merci à Pascal.